le journal de générique. Un journal présenté par David.
Eh bien, bonjour à tous. Je vous propose donc un nouvel épisode du journal de générique. Il y a très longtemps qu'il avait eu lieu, le dernier. En effet, ces derniers jours, ces dernières semaines ont été assez mouvementées avec des actualités au sein du monde du cinéma et des séries. Malheureusement, ces actualités ne sont pas toujours réjouissantes. En effet, nous allons parler dans un premier temps, en tout cas, des acteurs qui sont disparus récemment. Bon, j'entends déjà certains qui vont sauter de nouveau sur l'occasion pour dire « c'est encore la nécrologie sur générique ». Mais parfois, nous sommes bien obligés d'en parler. Donc effectivement, nous allons pouvoir se remémorer un peu des bons acteurs avant de faire peut-être une émission sur certains d'entre eux. Puis nous verrons également quelques informations sur les films ou séries à venir, mais pas nécessairement pour 2026. Tout d'abord, parlons de la disparition d'une grande actrice, Diane Keaton. Diane Keaton, l'actrice oscarisée, très appréciée, est décédée le 11 octobre dernier en Californie à 79 ans. Originaire de Los Angeles, Diane Keaton a abandonné ses études d'art dramatique en Californie et s'est installée à New York pour poursuivre sa carrière d'actrice, précise People. C'est là qu'elle a obtenu son premier rôle marquant à Broadway dans la pièce Played Again Sam de Woody Allen. Quelques années plus tard, elle a adapté son rôle dans la production théâtrale de 1968 au grand écran. Diane Keaton a joué aux côtés d'Al Pacino dans le film sorti en 1974, Le Parrain, s'imposant rapidement comme une star montante d'Hollywood. Elle a remporté son seul Oscar en 1977, retrouvant Woody Allen pour jouer son amour dans Annie Hall. Elle a ensuite été nominée pour d'autres films, notamment La Chambre de Marvin, dans lequel elle partageait l'affiche avec Meryl Streep et Leonardo DiCaprio. Si sa carrière, à la fois comme actrice et réalisatrice, témoigne d'une grande richesse, ce sont néanmoins sa personnalité singulière et son humilité qui ont le plus marqué son entourage. Nous essaierons donc de faire une émission sur elle prochainement, je pense. Ensuite, il y a eu aussi la disparition de Robert Redford, pour qui Yann a déjà fait une émission spéciale avec Robin. Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique. Militant écologiste avant l'heure, engagé, indépendant et prospère. L'acteur a joué dans de grands classiques comme Butch Cassidy et Le Kid en 1969, L'Arnaque en 1973 ou encore Les Hommes du Président en 1976. Sa mort a été annoncée au New York Times par l'agente Cindy Berger. Il est décédé dans son sommeil tôt le 16 septembre 2025 dans les montagnes près de Provo. Démocrate convaincu, défenseur des tribus amérindiennes et des paysages américains, fondateur du Sundance Film Festival, devenu la référence internationale du film indépendant, le cow-boy aux longues mèches dorées a cherché toute sa vie à tracer sa voie, gardant dès qu'il pouvait se le permettre ses distances avec Hollywood. Les grands studios lui ont offert quelques 70 rôles pour la plupart des personnages positifs, engagés, comme Les Trois Jours du Condor, romanesque, comme dans Gatsby le Magnifique, et inspirant toujours la sympathie même lorsqu'il jouait les escrocs comme dans Butch Cassidy et Le Kid, L'Arnaque ou son dernier film The Old Man and the Gun en 2018. Il a notamment tourné dans 7 films de Sydney Pollack. S'il reçoit un Oscar en 2002, pour l'ensemble de sa carrière, il n'a comme acteur jamais été récompensé pour un film en particulier, bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées dans des films emblématiques comme Jeremiah Johnson, Les Hommes du Président ou encore Out of Africa, qui l'ont intronisé comme l'archétype de l'amant idéal. Passons maintenant en juin 2025. Pour être exact, le 26. Le cinéma vient de perdre l'un de ses plus grands musiciens, un géant à l'origine de certaines des plus fabuleuses bandes originales de l'histoire du 7e art. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle.
Pour l'instant, non.
Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, né en 1932 à Buenos Aires, s'en est allé le jeudi donc 26 juin, des suites d'une pneumonie à l'âge de 93 ans. Mais son immense héritage semble d'ores et déjà gravé pour des décennies. Le compositeur argentin, auteur de la musique de Mission Impossible et de celle d'autres classiques tels que Bullitt, ou alors L'Inspecteur Harry, ou encore Opération Dragon, avait ainsi décroché au fil de sa longue carrière pas moins de 6 nominations aux Oscars avant d'être couronné d'une statuette d'honneur en 2018, pour l'ensemble de son œuvre, remise par Clint Eastwood himself, pour qui Schifrin avait composé pas moins de 8 bandes originales. Lalo Schifrin devient compositeur pour le label Verve, appartenant à la Metro-Goldwyn-Mayer, en 1963 et signe les Félins en 1964 de René Clément avec Alain Delon et Jane Fonda. À Hollywood, ne s'en passe plus et ils sont nombreux alors à faire appel à lui. Don Siegel, John Borman, George Lucas, Clint Eastwood, Peter Yates ou encore Schifrin composent plusieurs dizaines de musiques de films. Il signe aussi la musique de Dirty Harry, qui a influencé toute une génération de compositeurs américains. Et bien sûr, celle de l'incontournable Bullitt en 1968. Parmi ses nombreuses partitions, notons aussi celle de Enter the Dragon en 1973 de Robert Klaus, premier énorme succès hollywoodien de l'acteur Bruce Lee. Donc tu dois connaître, je pense. De la comédie d'action Rush Hour en 1998. Avec qui d'ailleurs ça, Rush Hour, tu dois connaître?
Peut-être la prononciation est peut-être pas...
Rush Hour.
Rush Hour. Ah oui. Chris Rock joue justement avec Jackie Chan.
Voilà, avec Jackie Chan également, bien sûr. Ou encore le film Tango de Carlos Saura. Lalo Schifrin a aussi beaucoup travaillé pour la télévision et notamment pour Bruce Geller, le producteur de Mission Impossible en 1966 et de Mannix en 1967, qui lui confia les bandes-son de ses séries aujourd'hui cultes.